Mesdames, Messieurs, membres du jury, bonsoir à tous et merci de votre présence. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans une région pas si lointaine, est née une créature, vorace et violente. D'autres êtres, plus faibles, plus jeunes, empreints d'admiration et d'envie, ont muté. Ils ont changé leur nature profonde pour devenir comme cette créature. Et cela peut se comprendre. Elle semblait forte, elle semblait sûre d'elle, puissante, et chaque faible se reconnaissait dans ses paroles. Ses discours, teintés d'un message rouge de destruction, les touchaient au plus profond de leur être. Pour une fois depuis longtemps, il semblait écouté, il semblait compris. Tellement sûr de savoir ce qui était bon pour eux, pour les autres, tellement sûr de savoir ce qui était bon pour le monde, ils se mirent en tête de tuer leurs opposants, qui jamais n'avaient cherché de combat. Ils n'aspiraient qu'à la paix entre les deux communautés. Désormais, ces monstres sont nombreux. Et alors qu'ils semblent avoir oublié les raisons de leur massacre, ils continuent pourtant de les perpétrer. Chaque jour, de nouvelles âmes rejoignent leur rang. Mais ces monstres, malgré leur nombre et malgré leurs traits et leurs noms connus, sont introuvables. Ils se cachent dans l'ombre, comme des lâches, car ils savent que jamais ils ne gagneront s'ils combattent ouvertement. Alors, le pays où se trouvent ces prédateurs sont perpétuellement en guerre. Contre eux-mêmes, ne sachant qui blâmer, ne sachant qui condamner. Le monstre dont je vous parle est une créature anthropomorphe, prétendant vouloir la paix et la justice, mais semant le sang et désolation sur son passage. Ce prédateur, cette bête, était autrefois un homme, et ses proies sont à nos portes. Ces hommes, ces êtres humains persécutés, traqués, cherchent à tout prix de l'aide. Ils cherchent à revenir dans nos régions, à venir dans nos régions où le monde n'oserait pas mettre les pieds. Pourtant, certaines nations si proches de la nôtre ne semblent pas vouloir leur tendre cette main tant désirée. Mais pourquoi ? Pourquoi vouloir refuser une aide à un égal ? Car l'être humain est profondément égoïste. Mais nous devons oublier cet égoïsme. Nous devons aider ceux qui nous supplient. Et je vais vous prouver qu'ils ont besoin de nous autant que nous avons besoin d'eux. Je vais vous démontrer que nous sommes humains, car beaucoup semblent l'avoir oublié. Je vais vous montrer, sur différents plans, économiques, sociaux et culturels, pourquoi nous sommes nécessaires l'un envers l'autre. Pour ce qui est du plan économique, pour commencer pas par le plus divertissant, je tiens à dénoncer la mentalité des personnes favorables à la fermeture des frontières et à l'égalité des migrants. Oui, je commence fort. Plus le temps passe, et plus j'ai l'impression qu'ils disent et pensent « Bienvenue chez nous, un pays démocratique et économiquement puissant. Tu as risqué ta vie et celle de tes enfants pour venir jusqu'ici. Tu as donné l'entièreté de tes richesses à un passeur qui a tenté de faire couler ton bateau. Un misérable canot de sauvetage gonflable. Pourtant tu es ici, pourtant tu y es arrivé. Félicitations, bravo à toi !» Pardon ? Tu veux entrer ? Ah, pas question ! Ah, pas question ! Y a pas assez d'argent, y a pas assez de place. Va voir à côté, y a un super camp pour toi à Calais. Je suis sûre que tu seras très bien. Mais ouvrons les yeux juste une seconde et permettez-moi un peu de cynisme. Quel est le portrait type d'un migrant ? Je vais parler un peu crûment. Des adultes en âge de travailler. Est-il nécessaire de rappeler que la population belge est vieillissante ? Mais qu'attendons-nous ? Construisons des logements peu coûteux ? Accordons-leur le chômage ? Chaque euro dépensé pour eux, ils ne nous le rendront au centuple. Ils seront motivés, ils chercheront du travail et tenteront de s'intégrer. Ils seront toujours plus volontaires pour un petit travail, même honteux et misérable, que le baraquis belgo-belge qui est heureux de vivre aux dépens des autres. Oui, j'ose le dire, oui. Pour ce qui est du plan social, désormais, je vous raconte une autre histoire. Imaginons un instant que l'entièreté de l'économie européenne s'effondre pendant cette nuit. J'en ai réveillé un en fond, excuse-moi. Si je dérange ? Non, ça va. Et oui, paf ! D'un instant à l'autre, vous n'avez plus accès ni à votre carte de crédit, ni à la pompe à essence. Mais, qu'allons-nous faire ? Quelle anarchie serait-ce alors ? Je donne une semaine à la France en des conditions telles, avant qu'elle tombe dans un âge des cavernes primaires. Alors naîtrait, comme dans ma petite histoire, un monstre. S'élevant petit à petit dans un semblant d'échelle sociale, il prendrait, par exemple, le contrôle du peu d'eau et du peu d'essence qu'il nous reste, contrôlant ainsi nos vies. Vous avez vu le film Mad Max ? C'est à peu près ça. Certains courageux tenteraient d'ouvrir les négociations. Allez-y, je vous en prie. Allez tenter de négocier avec un tyran ayant dans le creux de sa main votre espoir de vivre. Vous, peut-être toucherez-vous du doigt la compréhension de la situation actuelle en Syrie. Notre seule solution resterait donc la fuite. Mais fuir où ? L'Amérique ? Les États-Unis ? Bientôt dirigé par un conservateur, voyant la Belgique comme un nid et une usine de terroristes, une communauté d'État où il est plus légal pour un enfant de 16 ans de porter un revolver à la ceinture que de boire une bonne bière. L'Afrique ? Oh non ! Les racistes préféreraient mourir dans leur richesse que de vivre heureux dans la cambrousse. Pour la vision qu'ils en ont, en tout cas. La Chine, où est installé un smog permanent ? Que nous resterait-il ? Le Moyen-Orient, mesdames, messieurs. Mieux vaut rire qu'en pleurer, après tout. Vous croyez au karma ? Cette loi dictant que chaque action mauvaise vous retombera dessus un jour. Ouvrez les frontières, juste en cas de doute quand même. Sur le plan culturel, finalement, que je vais illustrer par cette petite phrase. La vraie richesse d'un homme se mesure au bien qu'il fait autour de lui. Cette maxime, aisément compréhensible par chacun d'entre nous, a été prononcée par Mahomet lui-même. Alors, cessez de penser qu'un seul correspond à toute une communauté. Cessez de penser que les demandeurs d'asile sont ces monstres que j'ai décrits plus tôt. Nous devons les accueillir, car ils sont les heureux survivants d'une guerre qui détruit les hommes et asservit les femmes. Alors qu'elles ont donné la vie avec effort, ces créatures détruisent ce travail qui a été éprouvant. Nous n'avons pas été créés pour être asservis, et tant que ces monstres existeront, tant que la guerre perdurera, d'autres femmes seront violées, d'autres hommes seront tués, et d'autres enfants seront orphelins. Nous devons les sauver pour ensemble. Faire disparaître ces monstres. Pour conclure, je vais vous laisser sur cette maxime de Chesterfield.
Oui, encore une.
Portez votre culture comme une montre, avec discrétion. Et gardez-vous de la tirer de votre gousset et de la faire teinter, pour le seul plaisir de montrer que vous n'en êtes pas dépourvu. Chesterfield parlait ici de la culture, du savoir. Mais j'aime à penser qu'il s'agit également de l'éducation. Eh bien, si notre pays était une bijouterie, je gagerais qu'elle serait plus belle en vendant des dizaines de montres différentes. Des anciennes à gousset, des nouvelles horreurs Apple Watch, des Rolex. Car les plus belles sociétés sont celles où les cultures sont le plus mélangées. Et les plus beaux arcs-en-ciel sont ceux portant le plus de couleurs. Merci.
À propos des jeux vidéo, on entend souvent dire « Ah, oh, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un jeu, c'est pas bien méchant ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous me laissez une légère digression ? Ne pas parler que des jeux, parler des autres médias, comme le cinéma, par exemple ? Je vous demande l'autorisation avant.
Pendant combien de temps ?
Je ne sais vous dire.
On parle des jeux.
D'accord. Avant de commencer, je tiens avant tout à préciser que je serai fort peu objective sur la question. Voilà, je joue... Il m'arrive de jouer aux jeux vidéo, donc voilà, je ne pourrais pas avoir un avis fort objectif. Alors, pour moi, oui, ce n'est qu'un jeu. Alors, vous me direz qu'il y a beaucoup de cas où, enfin, on entend parler de beaucoup de cas où un jeune ayant trop joué se retrouverait immergé dans son jeu tout le temps et que, par définition, il veut descendre dans la rue, tuer des innocents, sans savoir qui c'est, sans savoir pourquoi, parce qu'il est toujours dans son jeu, etc. Alors, je tiens à préciser une petite chose. Ce n'est pas le passe-temps le plus sain qu'il soit. Je vous le concède, mais il faut quand même avoir de sacrés problèmes psychologiques de base pour penser que nous sommes dans un jeu en permanence et de penser que, parce qu'on a tué quelqu'un, oh ben, la partie peut être relancée, pas de souci, j'ai fait une sauvegarde. Non. Ceux qui jouent aux jeux vidéo ne pensent pas comme ça. Loin de là, croyez-moi. Ceux qui ont commis ces actes, oui, existent. Je ne le nie pas. Mais je vous le répète, la plupart, je vais oser dire d'entre nous, sont assez conscients de ce qu'ils font, maîtrisent leur jeu et maîtrisent leur vie. La preuve, c'est que je suis quand même là à vous parler. Si j'étais en permanence dans mon jeu, jamais je ne me serais levé ma chaise. Donc, pour moi, oui, une fois pour toutes, il s'agit d'un jeu. Et l'important est de faire en sorte que ça ne devienne pas une priorité. Sur les autres côtés de la vie, sur l'école, sur le travail futur, sur les relations. Il faut simplement, lorsqu'on joue, essayer d'être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on fait hors de la vie, de se maîtriser, tout comme le reste des passe-temps, quand on est accro à la lecture, au sport, aux films, aux séries, il y en a beaucoup. C'est un passe-temps comme un autre, même s'il n'est pas beaucoup plus sain qu'un autre. Merci.